France Inter.
L'heure de votre journal, Amélie Perrier. Bonjour Amélie.
Bonjour Thomas et bonjour à tous. Des visages émaciés, trois Israéliens sont sortis ce matin de leur captivité. 16 mois aux mains du Hamas, leur état physique choque en Israël. Nous irons à Jérusalem dans un instant. Et en Cisjordanie, où près de 200 prisonniers palestiniens sont sortis de détention. Une collégienne de 11 ans retrouvée morte cette nuit dans l'Essonne. Elle avait disparu hier après-midi à la sortie des cours. Deux jeunes adultes sont en garde à vue. Des économies pour les finances publiques, cela passe par la suppression d'une enveloppe de 15 millions d'euros destinée à la recherche sur les cancers pédiatriques. Ces crédits faisaient pourtant l'unanimité à l'Assemblée. Un sommet pour l'intelligence artificielle à Paris. Dès ce week-end, le monde de la culture s'interroge sur la place à donner à l'IA. Et une tribune initiée par l'Adami recueille plus de 34 000 signatures de stars et d'artistes moins connus, de Jean-Jacques Goldman à Matt Pokora, en passant par Hervé Le Tellier. Nous recevrons dans ce journal la présidente de l'Adami, à l'origine de la mobilisation d'une ampleur inattendue. Après ce journal, secret d'info, Benoît Colomba, vous nous emmenez où aujourd'hui ?
Eh bien, nous allons partir sur les traces d'une jeune femme présentée par certains médias ukrainiens et russes comme la fille cachée de Vladimir Poutine. Elle a étudié dans une école à Paris jusqu'à l'an dernier. Et entre Monaco et Moscou, sa mère est à la tête d'un patrimoine immobilier estimé à plusieurs dizaines de millions d'euros.
Des flocons blancs sur le massif central. Quatre départements en vigilance orange pour neige et verglas. L'Ardèche, la Haute-Loire, la Lozère et l'Aveyron. Cela va continuer cet après-midi, Céline Dacosta.
Oui, entre le sud du massif central et sur les départements cévenols qu'on va surveiller de près.
Le point complet sur le temps à la fin de ce journal.
France Inter.
La cérémonie est désormais rodée. Des otages israéliens encadrés par des miliciens du Hamas, cagoulés, recouvrent la liberté lors d'un rituel filmé, diffusé en direct. Trois hommes capturés par le groupe palestinien ont été relâchés ce matin. Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour Amélie.
Le correspondant de France Inter à Jérusalem. Vous avez d'abord recueilli les premières paroles de la belle-mère d'un des otages, Ouad Benami. Elle s'appelle Michal Benami.
Il a l'air dans un état terrible. Aujourd'hui, il est âgé de 56 ans. Et on dirait qu'il en a 10 de plus. C'est triste de le voir comme ça. Et je peux dire, il faut les libérer tous, jusqu'au dernier otage.
Voilà, les visages des trois otages sont effectivement marqués et le chef du gouvernement israélien, Benjamin Netanyahou, dénonce, Thibault, des images choquantes.
Oui, des images qui ont été comparées sur les plateaux de télévision israéliens aux photos des survivants des camps de concentration et qui ont choqué les familles d'otages. Les trois hommes, vous l'avez dit, sont apparus cadavériques, livides, très affaiblis par 16 mois de captivité. Sous la contrainte du Hamas, Ohad Benami, Eli Sharabi puis Or Levi ont pris successivement la parole pour remercier la branche armée du mouvement islamiste de les avoir nourris. Et puis ils ont demandé à Benjamin Netanyahou de poursuivre à tout prix l'application de l'accord de trêve pour permettre la libération de tous les otages.
Et le Hamas, à travers cette mise en scène, veut envoyer un message, Thibault.
Oui, d'abord que le temps presse et qu'une solution diplomatique doit être trouvée au plus vite si Israël veut revoir ses otages en vie. Et puis la mise en scène a été organisée à Deir el-Bala, la zone la plus dense et la moins détruite de la bande de Gaza. L'intention est clair, alors que Donald Trump a émis cette semaine l'idée d'un déplacement forcé des Palestiniens de l'enclave pour pouvoir reconstruire une zone qu'il a décrite comme anéantie, le Hamas organise en réponse une cérémonie sans débordement au milieu de bâtiments intacts et à côté d'une route goudronnée et met ainsi en avant sa capacité à continuer à administrer un territoire qui a, selon sa propagande, résisté à plus de 15 mois de guerre.
Alors si l'on fait les comptes, Thibault, on en est donc aujourd'hui 8 février à 21 otages relâchés. Combien en reste-t-il encore en captivité ?
Alors, le Hamas a 3 semaines et donc 3 nouvelles vagues d'échanges pour restituer à Israël 8 dépouilles et libérer 9 hommes vivants en échange de 1200 prisonniers palestiniens dont la majorité a été arrêtée à Gaza après le 7 octobre sans charge avérée. Le problème, c'est que les discussions sur les modalités d'application de la deuxième phase de l'accord qui prévoit la libération de tous les otages et le retrait définitif des troupes israéliennes de l'enclave sont au point mort et les principaux obstacles n'ont pas été dépassés. Le Hamas Hamas veut continuer à jouer un rôle à Gaza. Israël refuse. Benjamin Netanyahou exige de conserver le contrôle de la frontière sud avec l'Égypte. L'organisation islamiste réclame un retrait définitif des troupes de l'État hébreu. Ils ont encore 3 semaines avant la fin de la première phase pour se mettre d'accord. Mais dans ce contexte, chaque vague de libération ne tient qu'à un fil.
Thibault Lefebvre, notre correspondant en direct de Jérusalem. Merci à vous. 21 otages israéliens relâchés en tout depuis l'accord de trêve le 19 janvier, on le disait. Et de l'autre côté, des centaines de prisonniers palestiniens sont libérés en échange. Aujourd'hui, Israël a relâché 183 prisonniers, dont 18 condamnés à perpétuité. Abla Jounaïdi, vous êtes à Ramallah où les prisonniers viennent d'arriver.
Oui, après un léger contretemps qui a fait croire ici aux familles que les autorités israéliennes allaient freiner leur libération, une menace constante qui rend l'accord de trêve fragile, les 42 prisonniers sont arrivés à bon port ici à Ramallah. Certains amaigris, les très fatigués, plusieurs ont été tirés du bus et portés en triomphe sur les épaules de leurs proches. En face, les femmes, des sœurs, des mères et des filles en pleurs attendaient aussi anxieusement avant d'exulter en chanson et avec des youyou à l'apparition de leurs frères, leurs pères. Des effusions de joie dont les autorités israéliennes avaient prévenu la semaine dernière qu'elles ne les toléreraient pas. Un vieil homme, un proche de détenu, affirme en off avoir reçu la visite de militaires israéliens hier à son domicile qui l'ont frappé et intimé de ne pas parler aux médias. Les hommes libérés purgeaient des peines longues, des peines dont le terme était proche. Certains pour avoir tiré sur des colons, d'autres dans le cadre d'opérations militaires en Cisjordanie. La Cisjordanie théâtre depuis des semaines d'opérations militaires israéliennes contre plusieurs camps palestiniens, dont celui de Jenin.
Abla Jounaïdi, RFI à Ramallah pour France Inter. Autre point chaud sur la planète, l'est de la République démocratique du Congo, où le groupe M23 et ses alliés rwandais, après avoir conquis la ville de Goma, continuent d'avancer sur le territoire congolais. Un sommet sur la paix se tient aujourd'hui en Tanzanie, avec les chefs d'État concernés, le Congolais Félix Tshisekedi et le Rwandais Paul Kagame, et avec les puissances voisines. Le président kényan William Ruto, lui, appelle à un cessez-le-feu. Le M23 doit stopper son offensive, dit-il, et la RDC se retenir de toute représailles. À Madrid, c'est un autre genre de sommet, comme une internationale des extrêmes droites. Make Europe Great Again, le mot d'ordre de la rencontre s'inspire évidemment du slogan du président américain Donald Trump, comme un modèle pour les dirigeants présents aujourd'hui dans la capitale espagnole, du Hongrois Viktor Orban à l'Italien Matteo Salvini, sans oublier la patronne du Rassemblement National Français, Marine Le Pen. Photo de famille à Madrid, signée Marie-Hélène Ballestero.
C'est la 4e réunion de la formation Patriote pour l'Europe, la 3e force politique au Parlement européen, fondée en juin dernier. Les dirigeants des extrêmes droites européennes ont donc voulu marquer le coup aujourd'hui à Madrid et démontrer leur force. Sur un ton conquérant, ils ont prononcé leur discours devant près de 2000 participants qui n'ont cessé de les acclamer. Après le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, les leaders du groupe parlementaire Patriote pour l'Europe défendent un virage à 180 degrés de l'Union européenne. Dans un communiqué commun publié hier soir, ils ont déclaré que l'ère des élites bruxelloises est terminée. Ils dénoncent notamment le fanatisme climatique, la réglementation excessive promue d'après eux par la Commission européenne ou encore l'immigration illégale. En somme, ils veulent transformer la politique européenne et en s'inspirant de la devise de Donald Trump, rendre l'Europe grande à nouveau.
Marie-Hélène Ballestero à Madrid pour France Inter.
France Inter. Le journal de 13h, Amélie Perrier.
Elle n'avait que 11 ans, elle s'appelait Louise. Elle avait disparu hier après les cours au collège à Épinay-sur-Orge, dans l'Essonne. Son corps sans vie a été retrouvé quelques heures plus tard, la nuit dernière, dans un parc non loin de là. Bonjour Sarah Guibaudot.
Bonjour.
Chef du service police-justice, que sait-on du drame à cette heure-ci ?
Écoutez, le corps de l'adolescente a été retrouvé vers 2h du matin dans le parc des Templiers. Sa famille avait donné l'alerte dans l'après-midi d'hier en ne la voyant pas rentrer du collège. Sa grande sœur avait lancé un appel sur les réseaux sociaux avec la photo de Louise et une description de ses vêtements. Un appel à témoins lancé également par la mairie d'Épinay-sur-Orge qui a fait part ce matin de sa vive émotion. Les recherches ont été engagées hier avec la police nationale, la police municipale, municipale et l'appui d'un hélicoptère de la gendarmerie. On sait que ce sont des chiens pisteurs qui ont marqué dans le parc. Le procureur d'Evry a ouvert une enquête pour meurtre. Il précise qu'une autopsie aura lieu cet après-midi à Corbeil. Un homme et une femme ont été placés en garde à vue sans que l'on sache ce qui les rend potentiellement suspects à ce stade de l'enquête.
Sarah Guibaudeau, merci à vous. Les obsèques du petit Émile se sont tenues ce matin dans le Var. Émile, petit garçon de 2 ans et demi, disparu en juillet 2023 pendant ses vacances chez ses grands-parents dans les Alpes de Haute-Provence. Son corps n'avait été retrouvé que 9 mois plus tard par une promeneuse. On ne connaît toujours pas aujourd'hui les causes de la mort de l'enfant. Toutes les pistes sont encore envisagées, de l'accident au meurtre. La France a un budget pour 2025, mais certains arbitrages passés inaperçus provoquent aujourd'hui la colère, notamment la suppression d'une enveloppe de 15 millions d'euros pour la recherche sur les cancers pédiatriques. On l'apprend par nos amis de France Info. Ce crédit faisait pourtant l'objet d'un consensus chez les parlementaires, Victor Costa-Mounier.
Président de la fédération Grandir sans cancer, Stéphane Védrenne se réjouissait du vote de ces 15 millions d'euros, surtout que ce budget était fléché spécifiquement sur la recherche clinique, étape qui permet d'expérimenter les traitements à l'hôpital. Il se dit sidéré.
Il n'est pas possible de sacrifier ainsi les enfants. On parle d'enfants atteints de cancer, on parle d'enfants qui, pour trop d'entre eux, sont condamnés à mourir, faute de traitement adapté. Enfin, c'est complètement indécent. On est peut-être dans un pays qui connaît des difficultés budgétaires, mais il y a peut-être mieux à faire que de tirer sur les enfants atteints de cancer.
Un retrait du budget qu'il déplore d'autant plus qu'il avait suscité un consensus chez les parlementaires, notamment François Ruffin, qui a défendu l'amendement en commission des finances à l'Assemblée nationale.
En commission à l'Assemblée, puis en hémicycle à l'Assemblée, puis au Sénat, dans un accord transpartisan, il y avait une unanimité pour voter ces 15 millions d'euros-là. Et M. Bayrou et son gouvernement, tout seuls dans leur coin, ont décidé de supprimer cette ligne de crédit.
En septembre dernier, parlementaires, associations, mais aussi médecins, avaient déjà signé une tribune demandant la création d'un programme d'investissement spécifique dans la recherche contre le cancer pédiatrique.
Victor Costa-Mounier. La priorité de l'Élysée ce week-end et pour le début de semaine à venir, c'est l'intelligence artificielle. Des acteurs de l'IA du monde entier se réunissent à Paris. Aujourd'hui et demain, on parle surtout culture et IA et les artistes sont inquiets. Bonjour Anne Bouvier.
Bonjour.
Vous êtes la présidente de l'ADAMI, c'est l'organisme qui gère les droits d'auteur notamment. Vous êtes à l'origine d'une tribune pour alerter sur les effets de l'IA sur les métiers et vous avez recueilli plus de 34 000 signatures. Vous ne vous attendiez peut-être pas à un tel succès ?
Non, effectivement, c'est une initiative que nous avons prise conjointement avec la SACEM, parce qu'il nous a semblé important d'être solidaires face aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Et effectivement, ça a été un vrai raz-de-marée. Habituellement, on recueille près de 15 000 signatures, et là, plus de 35 000, c'était inespéré.
Avec des stars, hein, Jean-Jacques Goldman, Patti Smith, le sculpteur Daniel Buren, Étienne Dao, côté cinéma, il y a Claire Simon, Agnès Jaoui, et également beaucoup d'anonymes, d'artistes moins connus. Quelles sont leurs craintes ?
Alors effectivement, on a mené un sondage dont les résultats spécifiaient que plus de 75% des artistes étaient très inquiets. Et alors évidemment, les craintes premières, c'est la suppression d'emplois, notamment pour les acteurs de doublage. C'est-à-dire que maintenant, avec les voix synthétiques et la synchronisation labiale, il sera possible par exemple que Brad Pitt, on utilise sa voix, qu'on recrée, et qu'avec la synchronisation, eh bien, ce soit Brad Pitt et non plus les acteurs aujourd'hui français qui puissent les doubler. Et avec aussi la perte potentielle de leur identité. De toute façon, on ne retrouvera jamais la vraie voix d'un Brad Pitt.
Et vous n'êtes pas contre l'IA. Vous ne voulez pas vous opposer totalement à l'IA. Vous dites que c'est un instrument dont il faut apprendre à se servir, c'est ça ?
Absolument, il faut que l'IA reste un outil et qu'on préserve ce qui est de l'ordre de l'œuvre de l'esprit. C'est quand même tout l'enjeu des droits d'auteur et c'est bien parce que ça remet en valeur ce que Beaumarchais a créé il y a des siècles. Et c'est important que ça reste un outil.
Les pertes, vous parliez des métiers hein, qui sont menacés en première ligne, hein, les comédiens de doublage. Est-ce qu'on a estimé les pertes également pour le secteur de la culture en droits d'auteur notamment ?
Ah oui, on pense qu'à horizon 2030, c'est plus de 25% en moins de revenus et c'est chiffré en milliards. Et ça peut aller jusqu'à 10 milliards d'euros.
10 milliards d'euros. Est-ce que c'est pas déjà trop tard en fait pour les artistes de se mobiliser maintenant ? Les intelligences artificielles, elles existent déjà en fait.
Bien sûr, et effectivement, ça va extrêmement vite. Mais tout de même, la spécificité de la culture, c'est que l'IA générative se nourrit des créateurs. Ce qui fait que si les créateurs n'abondent plus l'IA, l'IA générative ne pourra plus exister. Il a été prouvé qu'il y avait une dégénérescence potentielle de l'IA. Donc l'IA a besoin des créateurs. Et c'est pour ça qu'on a besoin que les créateurs puissent autoriser l'utilisation de leurs œuvres pour avoir évidemment une rémunération.
Et vous en appelez...
Les créateurs sont pillés.
Ouais. Et vous en appelez à qui, aujourd'hui, en quelques mots ?
Alors, évidemment, le sommet est l'occasion de faire prendre conscience aux chefs d'État qu'il faut élaborer des règles, qu'il faut que tout le grand marché de l'IA demande des autorisations auprès des OGC, qui sont les organismes qui gèrent ça et qui savent le faire, dont c'est le métier, et pour aboutir à des rémunérations. C'est ça, surtout, notre demande, c'est la transparence, l'autorisation et la rémunération.
Merci beaucoup, Anne Bouvier, présidente de l'ADAMI. Merci d'avoir répondu à l'invitation de France Inter. Bonne journée. L'intelligence artificielle au Royaume-Uni, là, c'est vu davantage comme une opportunité pour améliorer les services publics ou y faire des économies. Dans le pays où la croissance peine à repartir, on a déjà passé le cap, par exemple dans le Norfolk, le récit d'Emeline Vin.
Depuis un peu plus d'un an, le conseil du comté de Norfolk utilise l'intelligence artificielle chaperonnée par Kurt Frary.
On peut utiliser l'intelligence artificielle générative pour créer des ébauches de rapports administratifs. Autre exemple, dans le secteur de l'aide à la personne, l'IA et les modèles linguistiques permettent de retranscrire les rendez-vous, dont les comptes rendus doivent être exhaustifs. Ce qui prenait jusqu'à 5 heures prend aujourd'hui 5 minutes.
En clair, un coup de pouce à la productivité et donc des économies pour les autorités. Le responsable technologie a mis en place quelques garde-fous.
Il y a toujours une vérification humaine. Nous sommes transparents sur l'utilisation. Et pour l'instant, on ne l'utilise que pour les tâches administratives. On ne l'utilisera avec le grand public qu'une fois que nous maîtriserons pleinement les outils.
Kurt Frary assure également que les données restent au sein du conseil régional. Il se réjouit des applications futures de l'IA, par exemple, dans les casernes de pompiers.
Elle peut servir à la prévention et à l'analyse pour prévoir les interventions, la maintenance d'alarmes incendies, des choses très concrètes.
Le gouvernement compte sur le déploiement de l'intelligence artificielle pour faire diminuer les listes d'attente dans les administrations et les hôpitaux en particulier et stimuler une croissance anémique. Londres, Emeline Vin, RFI pour France Inter.
À Londres, on y reste puisque c'est jour de crunch. Les amoureux de rugby vont se régaler cet après-midi pour la deuxième journée du tournoi des Six Nations. La France défie l'Angleterre à Twickenham une semaine après avoir écrasé le Pays de Galles 43-0. Romain Tamac est suspendu. Alors au poste de demi d'ouverture, ce sera tout à l'heure Mathieu Jalibert. Le joueur sort d'un moment difficile dans sa vie d'international avec les Bleus, Vincent Pellegrini.
Lors de la tournée d'automne, pour pallier l'absence déjà de Romain Tamac blessé, Fabien Galthié avait choisi de titulariser Thomas Ramos au détriment de Mathieu Jalibert. Ce dernier traversait une période délicate psychologiquement et il avait choisi de quitter le groupe en accord avec le sélectionneur. Il y a quelques jours, Mathieu Jalibert est revenu sur cette décision peu commune.
C'est une période qui a été compliquée, mais voilà, ça fait partie aussi du sport de haut niveau. Tout ne peut pas toujours aller dans le bon sens. Je pense qu'on parle beaucoup de bien-être et de santé mentale et parfois il faut savoir dire stop. C'était pour moi la meilleure option pour tout le monde et ça m'a fait du bien.
Pour son retour comme titulaire en bleu après 11 mois d'absence, Mathieu Jalibert sera donc associé à Antoine Dupont. Le capitaine des Bleus envisage cette association avec confiance et sérénité.
Alors Mathieu connaît très bien le système. Il l'a expérimenté de nombreuses reprises ces dernières années. Donc avec Mathieu, on se connaît très bien maintenant. On a joué beaucoup de fois ensemble et je pense qu'on a cette connexion déjà entre nous et entre le reste de l'équipe aussi.
Mathieu Jalibert et ses coéquipiers affrontent une équipe d'Angleterre en plein doute qui vient de subir 7 défaites consécutives et qui, il y a 2 ans, avait été étrié à Twickenham par les Bleus 53-10.
Vincent Pellegrini suit le rugby à Londres pour France Inter. Angleterre-France, le coup d'envoi est à 17h45. À suivre également aujourd'hui Italie-Pays de Galles et demain ce sera Écosse-Irlande. Les départs en vacances sous la neige, c'est une bonne nouvelle pour les stations. Beaucoup moins sur les routes. Vigilance orange pour neige et verglas dans 4 départements du sud du Massif central. L'Ardèche, la Haute-Loire, la Lozère et l'Aveyron. Erwan Chassin, bonjour.
Bonjour.
Comment ça se passe sur les routes ?
Eh bien, la neige et le verglas rendent difficile la circulation sur l'A75 dans la traversée du Cantal, de la Lozère, de l'Aveyron, notamment à cause de la présence de poids lourds sur la chaussée, explique Guillaume Perrin. Il est secrétaire général de la direction des routes du Massif central.
Sur l'autoroute A75, donc fort épisode neigeux, mais qui était anticipé et prévu depuis hier, des mesures avaient été prises avec des restrictions de circulation pour les poids lourds supérieurs à 5 tonnes. Bon, cette restriction de circulation n'a pas forcément été respectée partout. Il y a un certain nombre de poids lourds non équipés qui sont sur les bandes d'arrêt d'urgence et qui complexifient un peu le déneigement.
Selon Guillaume Perrin, le phénomène météo arrive là à son pic, avec une vingtaine de centimètres de neige au sol. Elle devrait arrêter de tomber dans les prochaines heures, vers 15h, me dit-il. Viendra ensuite une chute des températures qui va rendre la chaussée très glissante.
La voie de gauche est déneigée partout, mais donc les conditions de circulation sont difficiles avec une circulation au pas et quelques arrêts parfois. On ne pourra pas remettre les deux voies en circulation aujourd'hui, vraisemblablement. Le froid, il va durcir la neige, ce qui va rendre plus difficile le raclage.
Et dans la vallée du Rhône, sur l'autoroute A7 qui passe par exemple en Ardèche, département concerné par la vigilance orange, la neige n'a pas d'impact sur la circulation autoroutière selon Vinci. Attention par contre à l'état du réseau secondaire, comme en Haute-Loire, où 10 à 20 cm de neige sont tombés sur les routes du Puy-en-Velay.
Merci Erwan Chassin, il en fait justement un point complet sur la météo.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents, en pharmacie et parapharmacie.
Et bonjour, c'est Linda Costa.
Bonjour Amélie, bonjour à tous.
Prudence toujours sur le sud du pays avec les fortes pluies et la neige.
Oui, la perturbation se décale un petit peu plus vers l'est, avec le sud du Massif central qui va rester le plus exposé aux précipitations, tout comme l'est de la Corse et le sud de la région PACA. Toujours de bonnes chutes de neige sur les Cévennes avec des cumuls importants en montagne. On parle de 10 à 20 cm au-dessus de 800 mètres d'altitude. Ça peut monter un petit peu plus au-dessus de 1200 mètres. Plus au nord, on aura encore de bonnes averses de la basse Normandie vers le nord de la région Centre-Val de Loire. Et pour les autres, un ciel variable avec une alternance de nuages, d'éclairs si timide quand même, et encore quelques gouttes ici ou là.
Et pour les températures ?
Pas vraiment de changement par rapport à hier, si ce n'est une légère baisse sur la moitié sud avec une moyenne de 7 à 15 degrés. La maximale 15 degrés, elle est pour Ajaccio. Pour la moitié nord, on relève 4 degrés à Alençon cet après-midi, 5 à Metz, 6 à Orléans, 7 à Paris et 8 à Reims.
Céline Dacosta, merci.